Nous sommes à Montréal le 18 avril 2011. Je me nomme Simon Martin, je suis en compagnie de Linda Bouchard pour discuter de son travail de compositrice à l'occasion de sa participation au Composer's Kitchen du Quatuor Bodini. Du 24 au 30 avril, elle agira à titre de mentor auprès des participants du Composer's Kitchen en compagnie de Thomas Stiegler. Nous pourrons entendre la musique de ces deux compositeurs ce mercredi le 20 avril lors du concert Salon des compositeurs 1, Portrait Linda Bouchard et Thomas Stiegler. Linda Bouchard, bonjour.
Bonjour, c'est moi.
Vous êtes née au Québec et vivez et travaillez depuis longtemps aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez me parler de votre cheminement professionnel? Qu'est-ce qui vous a amené à quitter le Québec ou à aller vers les États-Unis?
Bon, moi, je suis née à Val-d'Or, mais j'ai vécu toute mon enfance ici à Montréal. Mais j'ai appris la musique à l'école secondaire. J'ai pas eu d'études formelles avant l'âge de 17 ans, au moment où je suis allée au cégep. Donc, j'ai fait un cégep professionnel, donc après la troisième année. Et donc, un petit détail important, la troisième année du cégep, c'était une année où on nous proposait de faire de la composition, qui a été pour moi une révélation à l'époque. Pour continuer les études, donc à l'Université de Montréal, au conservatoire ou à l'Université McGill, il fallait que je me spécialise. Je devais être ou bien compositrice ou interprète. Et à l'époque, mon instrument principal, moi, c'était la flûte traversière. Et puis, je trouvais que j'avais pas assez de connaissances de mon instrument pour mettre ça de côté puis vraiment focusser juste sur la composition. Puis, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire vraiment entre les deux. J'ai entendu parler d'une école au Vermont, Bennington College, où c'était possible de faire les deux en tandem, de faire l'interprétation et de faire de la composition. Et puis, c'est là que j'ai découvert Henry Brandt. Henry Brandt, qui a été une figure marquante dans ma carrière, avec qui je suis restée en contact jusqu'à sa mort il y a 2 ans. Et je ne sais pas si j'ai vraiment choisi d'étudier avec Henry, même si je connaissais sa réputation, mais ça a été, vraiment un choix de vie qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Quand on était dans la classe d'Henry Brandt, on jouait tous de notre instrument, on jouait tous les compositions là, des autres compositeurs. On avait tous à apprendre la direction. Et puis, moi, j'étais quelqu'un de très timide quand je jouais en concert à la flûte. C'était terrible. Puis le jour où j'ai dirigé de ma musique et j'ai commencé à diriger la musique de d'autres compositeurs qui me demandaient « Est-ce que tu veux diriger ma pièce? » Tout à coup, ça a été une révélation. Je tournais le dos au public. Ah, voilà. Tout était beau. Et je travaillais avec les musiciens. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était plus mon instrument pour la performance, que c'était peut-être plus la direction que jouer de la flûte. Alors, en quelques années à New York, j'avais vraiment abandonné la flûte. Et puis, je faisais plus la direction. Et puis, il y avait un aspect très pratique dans l'enseignement de Henry, qui était sur l'écriture, que ce soit écrit de façon que les musiciens puissent vraiment jouer une partie. Que c'était... qu'on ait les idées les plus extraordinaires et extravagantes. Si c'était pas réalisé sur papier de façon à ce que ce soit jouable, ça passait pas. Mm-hmm. Ça, c'était clair. Et aussi, toute la composition, la classe de composition, était basée sur l'orchestration, le travail d'orchestration, le travail des instruments ensemble et séparés. Donc, j'ai passé 2 ans à Bennington. J'ai aussi passé un peu de temps à Paris. Et au moment où j'ai gradué de Bennington, j'ai réalisé que c'était plus important pour moi d'être en Amérique que d'aller en Europe. Et parce que malgré que j'étais énormément influencée et inspirée par les compositeurs européens, je sentais vraiment le besoin de rester en Amérique et de rester dans le rythme, dans le beat de l'Amérique du Nord pour vraiment essayer de me trouver moi-même. Et puis, j'avais été passer quelques jours à New York chez des amis qui jouaient avec le Eric Rock and Dance Company. Puis, ça avait été le coup de foudre. Aussitôt que j'étais dans quelques heures d'être à New York, je m'étais dit, bon, ben, c'est ici que je viens. Et en fait, quand je suis arrivée à New York, hein, j'étais là que pour 2 mois. J'étudiais la flûte avec Ransom Wilson. Et puis, finalement, de fil en aiguille, je suis jamais partie. J'ai fait ma maîtrise au Manhattan School of Music en composition. Et puis, donc, je suis restée aux États-Unis jusqu'en 91. Et pendant cette période-là, j'ai fait de la composition, j'ai fait de la direction. Donc, quelques années après avoir gradué, je me suis vraiment plus dirigée vers la direction. Je dirigeais de l'opéra, je dirigeais aussi beaucoup de musique contemporaine. Puis, je faisais aussi beaucoup d'orchestration pour des compagnies de danse, pour le Washington Ballet, pour le New York City Ballet, souvent des orchestrations pour réduire. les plus grands orchestres, et puis aussi pour des églises, dans les shows de Noël, des trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment dans la pratique, j'étais pas du tout avec le milieu académique, si tu veux. Après ces années-là à New York, à un moment donné, j'avais réalisé que c'était bon de sortir de Manhattan, parce que Manhattan, il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le reste du monde. T'sais, on peut être complètement enfermé sur soi-même. Et puis, je cherchais où j'allais aller, puis je suis revenue à Montréal. Donc, en 91, je travaillais avec le Forum 91, qui était un des premiers, c'était le premier forum, d'ailleurs. Et puis, j'ai découvert Montréal, parce que moi, quand j'ai quitté Montréal, j'avais 17 ans. Et puis, j'ai découvert Montréal, tombé en amour avec Montréal. J'ai dit, ben, je reviens à Montréal, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et puis, donc, j'ai été compositeur en résidence pendant 3 ans au Centre national des arts. Et pendant cette période de temps-là, j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari, et lui, il était américain. Donc, lui, il a quitté les États-Unis pour venir au Québec, et puis ensuite, on est retourné aux États-Unis en 97. Il y avait un emploi à San Francisco, donc c'était un peu un échange, c'est à son tour. Puis voilà, on est à San Francisco depuis 97, et ça a été vraiment plus un hasard pour moi. Et donc, depuis 1997, je suis à San Francisco, et ce que j'ai fait beaucoup depuis 6 ans, j'avais produit beaucoup de concerts à New York, et j'ai créé une compagnie de production d'événements musicaux, de musique contemporaine, multimédia, qui s'appelle Next Map. Alors, j'ai décidé de faire une pause de direction. Et puis, en fait, je ne peux pas dire que la direction, ça m'a manqué, mais ce qui m'a manqué, c'était le contact avec les musiciens, de travailler avec les musiciens, de faire quelque chose ensemble. Et puis, j'ai commencé à travailler sur le son live en me servant de l'ordinateur. Puis j'ai aussi dans mon studio en ce moment un Liberated Piano. Alors, c'est un piano qui a été sorti finalement complètement. Il n'y a plus de marteau, il n'y a plus du tout de. C'est tout simplement la caisse avec les cordes. Et puis j'ai commencé à le préparer, puis à jouer avec ça. Et puis ça fait quelques mois que je l'ai dans mon studio, j'ai pas du tout eu le temps de vraiment explorer cet instrument-là, mais j'aimerais ça faire du live.
Est-ce que vous avez attaché encore une importance particulière au fait de vivre aux États-Unis et de vivre en Amérique du Nord? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez que votre musique est représentative d'une culture distincte géographiquement? Est-ce que c'est un sentiment qui alimente votre réflexion aussi par un certain retour?
J'ai senti profondément que le rythme de New York, la juxtaposition de beaucoup de réalités culturelles et de toutes sortes de musiques. Et puis à l'époque, quand je vivais à New York, j'allais beaucoup écouter de jazz, de big band dans le East Village. Et puis j'écoutais beaucoup de musique, toutes sortes de musiques. Et c'est certain que ça m'a influencé. Et aussi le rythme de Manhattan, qui est un rythme qui est hyper rapide. Alors tout ça, je pense que oui, ça m'a influencé, mais de là à dire que ma musique serait influencée par la musique américaine, par une esthétique américaine, je pense pas. Un autre esthétique qui m'a beaucoup influencée, c'est le buto. Dans le buto, il y a une espèce de focus sur l'émotion. Et non, pas l'idée de traduire une émotion, c'est de vivre l'émotion. Je pense que ma musique s'écoute pas d'une façon, s'écoute d'une façon linéaire, mais elle ne s'expérience, on n'en fait pas l'expérience d'une façon linéaire. Et puis, la façon dont, pour moi, le buto a été intégré, si tu veux, dans ma musique, c'était que, moi, je trouvais que quand on avait un événement fort qui nous troublait ou qui nous touchait vraiment, on n'en faisait pas l'expérience d'une façon stratégique. Hein. On en faisait l'expérience comme si on rentre dans une pièce et puis il y a quelque chose qui nous frappe. On voit quelque chose, on entend quelque chose, on sent, on voit les couleurs, on revoit un autre. Donc c'est une espèce de collage d'impressions de tous nos sens qui fait que ça crée un tout qui est vraiment une mémoire de notre perception. C'est pas vraiment ce qui s'est passé dans la pièce.
On pourrait entrer dans votre cuisine un peu davantage et vous demander tout simplement d'où vient l'idée musicale et puis comment vous avancez pas à pas dans l'écriture d'une œuvre, dans la connaissance que vous avez de l'œuvre, comment elle se construit.
Chaque œuvre commence par l'instrumentation pour laquelle j'écris. Et puis, je peux passer beaucoup d'heures à tout simplement écrire des esquisses en essayant de trouver des couleurs, à trouver des textures, et que ce soit pour orchestre ou pour deux instruments ensemble, finalement. Alors, et ça, tu parlais de cuisine, parce que finalement, c'est comme des petites recettes. Bon, on va mettre cette épice-là avec cette épice-là, on va essayer si ça marche, on prend une petite bouchée, ah, peut-être que, bon, on laisse ça de côté dans un petit bol. Puis finalement, après quelques semaines, j'ai plein de petits bols. Et puis là, naturellement, au départ d'une œuvre, ou au fur et à mesure que je fais les esquisses, habituellement, il y a une idée. J'essaie d'avoir une idée qui me touche ou qui m'inspire ou qui réussit à me transporter du début de l'œuvre à la fin, finalement, une espèce de. Et ça peut être une idée très abstraite, ça peut être qu'une image, comme par exemple pour Trace, j'avais été faire du ski de fond. Il avait neigé, puis j'étais dans des pistes qui n'étaient pas du tout balisées, puis je suivais des traces de lièvres. Et puis tout à coup, la trace s'estompait, puis on voyait l'empreinte des ailes d'un aigle qui était passé, puis qui avait un petit. Alors, dans le silence du matin, il y avait tout un drame qui était là, sous les yeux. Et puis je réalisais, ça me faisait penser à toute l'idée de trace et de souvenir, à quel point le souvenir, c'est une juxtaposition, justement, comme je disais tantôt, de ce qu'on a vécu sur le moment et ce qui nous a resté, mais ce n'est pas nécessairement l'événement lui-même. Et puis donc, trace, c'est l'exploration de ça, le présent et le passé, de quelle façon on crée un souvenir.